Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bonjour, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, jeunes hommes, jeunes femmes. Bonjour à tous, merci d'être à Philosophie au présent avec Michele Saporiti. Bonjour Michele.
Bonjour Nathalie Perrin, quel plaisir de te retrouver
voilà,
aujourd'hui.
Merci, on est très très heureux de vous retrouver. Nous sommes en direct et vous savez que ce direct pourra être podcasté. Nous vous donnerons toutes les informations à la fin de l'émission. Vous êtes bien, mesdames et messieurs, sur Aligre FM 93.1. Nous sommes aussi sur le DAB et DAB+, me semble-t-il. www.aligrefm.org. Allez regarder toutes les informations pour faire des dons, aussi pour regarder tout ce que cette radio fait de manière libre. Hein, c'est une des dernières, si ce n'est la dernière radio libre. Voilà, encore en action. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Philippe Donnefort qui s'occupe de la technique. Voilà notre magnifique générique qui est là en place depuis au moins 6-7 ans. Hein, longtemps, ouais.
Okay.
Voilà. Voilà. Bon, alors on s'inscrit aujourd'hui, Michele, dans la semaine du Japon. Hein, qui est une semaine thématique. Vous savez qu'Aligre s'est fait depuis quelques années porteuse comme ça de semaines thématiques, de manière à ce que l'ensemble des émissions hein, puissent se retrouver autour d'une thématique centrale et l'aborder selon les orientations qui leur sont propres à chacune. Nous, c'est plutôt une orientation philosophique, comme nos auditeurs l'ont compris. Alors, Michele, on s'est réparti la tâche. Nous ne sommes pas des spécialistes de la philosophie japonaise. Nous aurions voulu inviter quelqu'un du Collège international de philosophie, parce que nous avons un collègue, hein, nous rappelons que Philosophie au présent est un partenariat avec le Collège international de philosophie. Voilà. Un partenariat de deux belles institutions libres. Et on avait un collègue hein, spécialiste du Japon, on rappelle son nom.
Romaric Janel.
Voilà.
Hein, et qui travaille au Japon, qui travaille sur la philosophie.
Sur la philosophie japonaise. Voilà, nos auditeurs pourront, s'ils le veulent, regarder aussi les articles de notre collègue, qui donc ne peut pas être là avec nous aujourd'hui. Alors nous, on va l'aborder avec notre point de vue personnel.
J'ai dit, alors les titres qu'on a donnés à cette émission, chère Nathalie, donc les philosophes et le Japon.
On a choisi un titre très large. Ne peut-être ne pas prendre de risques.
Peut-être aussi.
ou en tout cas pour se donner la liberté d'intervenir un peu comme on le souhaitait.
Oui.
Alors, une première partie, on va s'intéresser à Barthes, pas ?
Oui, chère Nathalie. Quand tu m'as proposé, on s'est proposé ensemble peut-être aussi de faire cette émission. Alors, philosophie et Japon, les philosophes et le Japon. J'ai pensé immédiatement à Barthes.
Oui.
Sauf que, vraiment, c'est un peu à toi de me dire, mais Barthes lui-même, c'est-à-dire Roland Barthes, est-ce que Roland Barthes est un philosophe, un penseur? J'aime pas. Pour moi, absolument oui, dans le sens là, un vrai philosophe. Bien sûr, sémiologue, énorme connaisseur du phénomène du signe, des signes.
Oui, ce que veut dire la sémiologie.
Exactement, sémiotique, la sémiologie, tout ça. Et pour moi, un immense philosophe aussi, J'aime pas si on peut évoquer, s'il y a encore une raison de le faire, la différence entre le penseur et le philosophe.
Oui.
Je ne sais pas.
Oui.
Mais ce Barthes spécifique, que j'aimerais bien aborder avec toi, Nathalie, avec les auditrices et les auditeurs de Radio Aligre FM, est un Barthes tout à fait... qu'est-ce que je peux dire? L'Empire des signes, je dois dire, c'est une sorte de best-seller.
Oui.
Nathalie, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais ici, j'ai aussi la traduction en italien
qui s'appelle
L'Impero dei segni. C'est-à-dire, c'est la traduction de L'Empire des signes qui est que comme d'autres, quand je parle italien, après, ça vient l'italien, livres de Roland Barthes sont encore des énormes best-sellers. Je pense, bien sûr, au fragment des fragments d'un discours amoureux. J'ai dit, quand je parle à mes étudiants de première année, j'ai dit toujours, alors vous voulez tomber amoureuse, amoureux de l'amour, alors il faut lire Roland Barthes, les fragments d'un discours amoureux, énorme. Et alors, l'Empire des signes, 1970, alors, essayons un peu de situer 1970. Alors, Roland Barthes, je rappelle seulement quelques éléments très importants. Vous savez, il est né le 12 novembre 1915 à Cherbourg et il est mort malheureusement après un accident et une hospitalisation en 1980, le 26 mars 1980 à Paris. 1970, Roland Barthes vient de faire un voyage au Japon. Quelque chose que j'aimerais bien faire, toi aussi, je sais pas, peut-être. Moi, oui, j'aimerais bien avoir ces chocs énormes dont vraiment le signe, aussi la trace, on est déjà dans le langage barthésien.
Oui,
hein. Et bien sûr, l'Empire des signes. Alors, l'Empire des signes est, disons, la véritable empreinte philosophique de ce choc qui est à la fois intellectuel, culturel, mais j'ajoute aussi sémiologique, sémiotique que Barthes a vécu au Japon. Et alors là, Nathalie, on trouve dans cet ouvrage, on peut dire une petite anthologie de l'œuvre barthésienne. Ça, c'est aussi la fascination qui regarde un peu au-delà. Pour comprendre mieux, bien sûr, avant tout l'Occident peut-être, ou quelque chose de l'Orient, mais sur l'Occident, après, dans la seconde partie de notre émission, c'est à toi de mieux...
Oui, on reviendra sur la question de l'autre.
De l'autre, ou, voilà. Encore une fois.
Oui.
Alors, cette petite anthologie de l'œuvre barthésienne, de sa pensée, est vraiment structurée, encore une fois, selon la logique des fragments. Alors, si Barthes a bien écrit, comme on en dit, un best-seller, comme les fragments d'un discours amoureux, on le disait, pour plusieurs aspects, chère Nathalie, l'Empire des signes pourrait avoir un sorte de sous-titre, c'est-à-dire fragments d'un discours barthésien. Je trouve ça. Et alors, l'expériment que j'aimerais bien faire aujourd'hui, toutes et tous ensemble, est un peu de parcourir ce classique. J'ose dire, on peut l'appeler un classique, l'Empire des signes, hein, avec cette attention majeure à donner aussi au grand public la possibilité de peut-être de comprendre ou ne pas comprendre. On s'en fiche un peu. Mais de voir de la complexité dans le discours qu'on est en train de faire. Alors, on va un peu parcourir ce classique comme s'il s'agissait d'une collection de fragments japonais filtrés à travers la finesse de la pensée barthésienne. Qu'est-ce que tu en penses?
Super, je suis tout oui.
On s'engage. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, alors j'ai fait référence, justement pour vous donner, j'espère aussi l'envie de le lire, à l'édition L'Empire des signes, Roland Barthes, bien sûr, l'édition du Seuil, non, qui est, disons, l'éditeur majeur de l'œuvre, disons, complète. De l'œuvre complète de Roland Barthes. Et j'aimerais bien aussi mentionner au moins dans un grand spécialiste de Roland Barthes, qui est Éric Marty. Éric Marty, qui a énormément étudié l'œuvre de Roland Barthes. J'aimerais bien mentionner, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais bien sûr aussi Le sexe des modernes, c'est 2021, encore une fois, avec un concept qui est au cœur de la philosophie de Roland Barthes, c'est-à-dire le nôtre. Et alors, je voulais préciser cette édition, et c'est 2025, c'est-à-dire c'est toujours la même édition, magnifique édition poche, je dois dire, à couleur. Je trouve aujourd'hui c'est vraiment un luxe pouvoir le faire. Et ici aussi, j'aimerais bien mentionner l'édition italienne, mais c'est important parce que c'est Einaudi, c'est-à-dire c'est l'éditeur qui a vu passer les grands noms de la littérature italienne, mais aussi, je dois dire encore une fois, d'une littérature tout à fait attentive à l'importance de la pensée. Je pense par exemple à Calvino,
Oui. Okay.
Tu as bien travaillé pour Einaudi, énormément publié par Einaudi. Donc, Roland Barthes, L'Impero dei Segni, petite bibliothèque Einaudi, encore une fois, vous le trouvez dans toutes les librairies, je crois.
Oui, à Paris, sans problème.
À Paris, sans problème. Oui. Alors, je commence avec le premier fragment. Alors, premier fragment, on est à page 11. Comme ça, on est déjà, on peut dire, peut-être un plein querelle, c'est-à-dire oui. Orient-Occident. Et elle est, alors, je ne sais pas si Roland Barthes aurait aimé cet Italien qui lit avec son accent le français, mais peut-être oui. Hein, oui. Dans le sens qu'il y a quelque chose dans la réflexion linguistique de Barthes qui parle, et après on aura, je crois, aussi l'occasion de développer, qui parle de la signification institutionnalisante de la langue. Mm-hmm. Donc on va peut-être, c'est en sorte de méta-lecture, hein, ce que je donne avec ma voix. Alors, il écrit à page 11. L'Orient et l'Occident ne peuvent donc être pris ici comme des réalités que l'on essaierait d'approcher et d'opposer historiquement, philosophiquement, culturellement, politiquement. Je ne regarde pas amoureusement vers une essence orientale. L'Orient m'est indifférent. Il me fournit simplement une réserve de traits dont la mise en batterie, le jeu inventé, me permet de flâner mais permettant de flâner l'idée d'un système symbolique inouï, un terme qu'on va travailler, entièrement dépris d'une autre.
Oui.
Alors là, on trouve déjà un Barthes, je sais pas qui, et un Barthes qui fait un peu semblant. Hein. J'ose dire, comme il fait toujours. C'est-à-dire, on ne va pas s'opposer historiquement, philosophiquement, culturellement, politiquement. Il y a tous ces niveaux dans cette lecture de Barthes. Mm-hmm. Mais il y a déjà un peu l'idée, Orient, Occident, ils sont des réalités. Peut-être ils sont déjà, disons, une dimension à comprendre. Hein, oui. Déjà. C'est vrai que notre pensée est toujours située. Mm-hmm. Située dans une tradition, située dans une culture, située aussi dans un horizon. Hein, c'est ça. Et ce qui est énorme et majeur dans l'effort qui fait Roland Barthes envers le Japon, c'est de comprendre comment essayer de saisir non l'essence. Il dit très bien. Parce qu'à la fin, il n'y a pas d'essence.
Non.
C'est une autre chose là.
Oui, oui.
Mais au moins d'essayer comment utiliser certains outils de la pensée occidentale pour voir s'ils marchent bien ou ne marchent pas du tout. Hein, quand on est confronté à l'autre. Et le Japon, pour Barthes, on est 1970, et vraiment l'autre à plusieurs niveaux. Hein, à plusieurs niveaux. Et alors, après cette fragment sur l'Orient et l'Occident, on va à la question de la langue inconnue, ce que Barthes appelle la langue inconnue, et qui nous parle beaucoup aussi en général de toute une série de concepts, de catégories, des notions que nous utilisons aussi en philo. Je veux dire, je ne sais pas, Nathalie, si tu es d'accord avec moi, je précise dans la philo occidentale.
Oui, tout à fait.
Ok, dans notre tradition occidentale. Bien que, on va le préciser, bien sûr, dans la seconde partie, il y a pas mal de difficultés, hein, peut-être, d'approcher philosophiquement le Japon, ou disons aussi la culture orientale.
Oui, précisément quand on ne connaît pas sa langue, hein, puisqu'on sait à quel point la langue oriente précisément la pensée et la manière aussi de concevoir une philosophie.
Alors, merci, tu as fait la meilleure introduction possible à ces morceaux de Barthes, qui s'appelle justement « La langue inconnue », parce que Barthes écrit, page 15, « Le rêve ». Connaître une langue étrangère, étrange, et cependant ne pas la comprendre. Donc connaître et la comprendre. Percevoir en elle la différence sans que cette différence soit jamais récupérée par la socialité superficielle du langage, communication ou vulgarité. Connaître, réfracter positivement dans une langue nouvelle les impossibilités de la nôtre. Apprendre la systématique de l'inconcevable, défaire notre réel sous l'effet d'autres découpages, d'autres syntaxes, découvrir des positions, encore une fois, inouïes du sujet, dans l'énonciation, déplacer sa topologie, en un mot, descendre dans l'intraduisible. L'intraduisible.
Tout à fait.
Alors, nous voyons ici, Nathalie, il y a déjà il y a déjà tout, disons, le lexique de l'auteur, mais dans le sens de Marthésien, la langue, le langage, la possibilité, l'impossibilité. Il y a une marge d'intraduisible en ce sens-là.
Oui.
Et après, il dit quelque chose de, qui me marque beaucoup aussi en tant que non-langue maternelle. Parce qu'il l'avait dit dans plusieurs occasions aussi dans ses cours au Collège de France. Il précise justement, après ces lignes, qu'il y a pour nous la possibilité de vaciller, de faire vaciller les droits de la langue paternelle.
Mmh.
Celle qui nous vient de nos pères et qui nous fait à notre tour père et propriétaire d'une culture que précisément l'histoire transforme en nature. Là, je crois qu'il y a un vrai manifeste qui nous fait beaucoup penser, disons, à ce que, comme tu disais avant, ce que la langue signifie.
Oui, parler, c'est toujours parler ceux qui ont parlé avant nous.
Absolument.
C'est-à-dire, ouais. La langue, c'est toujours une, on pourrait dire, une reproduction idéologique. Or là, la langue de l'autre, celle qui est si difficile à acquérir, me renvoie finalement une sorte de décontenancement de moi-même et une, on pourrait dire, une destitution du moi, du moi en tant que majoritaire,
absolument.
Sûr de posséder ce qu'il possède, sa culture, sa pensée, son histoire.
Précisément,
etc.
Cette idée des déinstitutionnalisés.
Oui.
Et voilà ce que peut-être aussi le Japon représente aussi pour Laurent Barre, c'est-à-dire, quelquefois, comme pour moi, se retrouver dans un lieu autre. Tu n'es pas partie de ce lieu, tu ne fais pas partie, à plein titre, disons aussi, de la communauté politique, c'est-à-dire tu ne fais pas partie avant tout aussi de la culture qui s'exprime dans la langue. Donc, cette idée de l'étrangeté, non ?
Oui.
Étrange, étrangère, il y a quelque chose de la mesure de l'intraduisible, mais il y a aussi une thèse philosophique très profonde ici, parce qu'il y a l'idée que ce que nous appelons encore une fois culture devient après nature.
Mmh.
Alors, donc, la tradition qui fait que des conventions que nous avons tout à fait, on peut dire, accumulées, dans les années, dans les décennies. Après, il devient vraiment culture, mais dans le sens le plus naturel du terme, c'est-à-dire la normalité, ce qui renvoie la norme. Et dans un lieu où tu ne connais pas trop les normes, comme pourrait être aussi, bien sûr, le Japon, est-ce qu'il y a cet espace pour ce phénomène que Barthes appelle justement la vision de l'empire des signifiants? Il appelle ainsi l'empire de la signifiant. Alors, je viens au troisième morceau que je voudrais un peu partager dans cet effort très intime que je suis en train de faire avec toi, Nathalie, et avec ceux qui nous écoutent. Page 22. Or, il se trouve que dans ce pays, le Japon, l'empire des signifiants est si vaste. Il excède à tel point la parole, que l'échange des signes reste d'une richesse, d'une mobilité, d'une subtilité fascinante en dépit de l'opacité de la langue, parfois même grâce à cette opacité. Alors, ici, nous trouvons déjà, si on veut dire, vraiment une petite lexique barthésien, à travers lequel, et là, peut-être c'est aussi la limite de Barthes, et la limite de Barthes en tant que philosophe et en tant que penseur, il essaie de comprendre cet autre total radical qui est le Japon, qui est aussi l'idéal ou l'idée que ce lieu exprime. Nous trouvons l'idée de la langue, du langage, l'idée de la parole, mais pour peut-être aussi surmonter ces difficultés, voici qu'il trouve un moyen que déjà quelqu'un qui était énorme dans la philosophie occidentale, c'est-à-dire, je pense à Schopenhauer, avait déjà trouvé, c'est-à-dire le corps. Et alors Barthes écrit « La raison en est que là-bas le corps existe ». Se déploie, agit, ses dons, sans hystérie, sans narcissisme, mais selon un pur projet lui, ce que lui appelle érotique, quoique subtilement discret. Alors voilà la dimension du corps. À la dimension du corps, on le sait bien en tant qu'enseignant de philosophie, je pense au monde comme volonté et représentation. Voilà, que la dimension du corps qui nous permet d'une certaine façon d'aller au-delà de ce monde qui nous, qui nous entoure comme de pures représentations et qui nous permet de faire une expérience autre en ce sens-là. Mais dans cette exposition un peu fragmentaire que je suis en train de faire, ce que renvoie le corps, ce que le corps signifie en ce sens-là, est bien précisé par Roland Barthes. Voilà, c'est pour ça, Nathalie, que je disais au début de notre émission, qu'il fait un peu semblant, dans le sens... Mais c'est typiquement, Éric Martin l'a dit plein de fois, donc la pensée barthésienne a sa richesse dans la contradiction. C'est ça. Peut-être dans la contradiction, je ne sais pas, dans la contradiction selon les catégories occidentales, pas la contradiction totale.
Oui, ou peut-être paradoxe.
Le paradoxe,
tout à fait, qui n'est pas la contradiction, en fait.
Exactement, qui n'est pas forcément la contradiction. La question des paradoxes, aussi tout l'héritage aussi qui nous arrive, des plus paradoxales des philosophes qui étaient par exemple les sophistes. Et là, je pense par exemple à notre figure majeure du Collège international de philosophie que nous avons eu le plaisir d'accueillir, Baba Kassa.
Tout à fait, non, oui. Tu parlais des intraduisibles.
Exactement.
Et de son dictionnaire des intraduisibles, absolument magnifique.
On est déjà là. Et alors Barthes nous dit, le corps c'est quoi? Ce n'est pas la voix. Ce n'est pas la voix qui communique, c'est tout le corps, les yeux, le sourire, la mèche, le geste, les vêtements, qui entretient avec vous, c'est-à-dire avec nous, une sorte de Babil auquel la parfaite domination des codes ôte tout caractère régressif, infantile. Donc c'est vraiment le corps, je ne sais pas, comme totalité, en ce sens-là, comme une totalité qu'il dit Babil. Donc, qu'il parle en ce sens-là.
Mais en fait, excuse-moi, c'est une question un petit peu de quelqu'un qui j'ai lu le fragment du discours amoureux et d'autres textes de Barthes, mais là, une question un peu naïve, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut dire par le corps? Il veut dire que le corps devient un métalangage. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que lui ne possède pas totalement la langue japonaise. D'ailleurs, est-ce qu'il parle japonais?
Ah non.
Pas du tout.
Non, en
fait, c'est une manière de s'approprier, parce que ce n'est pas un terme qui lui va, mais d'être au Japon par le corps, alors en tant que lui se projette dans le corps social du Japon, ou parce qu'au Japon, le corps est peut-être finalement beaucoup, se donne comme une présence beaucoup plus forte qu'en Occident, où on pourrait imaginer que c'est davantage la parole, la raison ou l'abstraction qui se donne à voir en Occident.
Oui, alors je dirais plutôt la dernière déclinaison que tu as donnée, c'est-à-dire le corps comme une réalité à part entière, qui ne se réduit pas à ses composantes, à ce sens-là, mais encore une fois, le corps qui a une dimension autre et différente par rapport à ce que le corps représente pour la tradition occidentale. Tu as bien dit, pensons par exemple à la question de la voix. La voix qui renvoie, mais aussi au concept de la vérité, de quelque chose qui peut être proféré, je crois que c'est un peu latent, mais proféré, qui peut être dit, communiqué. Là, il y a déjà une sorte de phénomène de signification dans le corps, en ce sens-là. C'est-à-dire, et c'est très intéressant ce que, par exemple, Barthes nous dit à propos même du théâtre et aussi de l'utilisation du théâtre. Et merci pour cette question, chère Nathalie. Il parle du théâtre de marionnettes japonais qui s'appelle Bunraku. J'espère de le bien prononcer. Bunraku s'appelle ainsi. Et par opposition, mais il y a toute une réflexion autour du théâtre occidental. Parce que dans le théâtre, si on pense bien, il y a le corps.
Oui.
Mais il y a aussi la voix, bien sûr. Si on pense aussi à la tragédie grecque, il y a aussi le chant. Il y a aussi les mouvements. On pourrait dire mais qu'il y a encore une action. Et alors, le bar-penseur du Japon commence à dire, oui, mais est-ce qu'on est face au même phénomène du corps? Est-ce qu'on est face au même... Et paradoxalement, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il essaye de comprendre le théâtre des marionnettes japonais. Mmh. C'est-à-dire des êtres, on peut dire, inanimés.
Oui.
Mais inanimés ou animés, encore une fois.
Mmh.
On est encore une fois en train d'utiliser des catégories, des notions, des idées qui nous appartiennent, mais qui sont étranges, étrangères, peut-être pour cette tradition. Alors, page 80, je vais lire un tout petit morceau à propos justement de ce point que Nathalie Cypriamont nous a proposé, c'est-à-dire un peu bon, les corps, mais encore une fois, comment penser le corps, le corps humain. Alors, il écrit « animé, inanimé ». Traitant d'une antinomie fondamentale, pour nous c'est une antinomie, c'est vrai, celle du « animé, inanimé », le « bunraku », j'espère, c'est-à-dire avec la « e », la trouble, l'évanouit, sans profit pour aucun de ces termes. Chez nous, c'est-à-dire chez,
en Occident,
je ne suis pas en France, mais en Occident, la marionnette est chargée de détendre à l'acteur le miroir de son contraire. Elle anime l'inanimé, mais c'est pour mieux manifester sa dégradation, l'indignité de son inertie. Caricature de la vie, il parle de la marionnette, caricature de la vie, elle n'affirme pas, par là même les limites morales et prétend confiner la beauté, la vérité, l'émotion dans les corps vivants de l'acteur, qui cependant fait de ce corps un mensonge.
Mm.
Alors, il est encore en train, paradoxalement, un peu de vider. Hein?
Oui.
Donc, il essaie de dire, bien, pour nous, la marionnette, c'est ça. Mais le buraku, lui, il nous explique, ne signe pas l'acteur, il nous en débarrasse. Donc, c'est-à-dire, vraiment, ici, il y a le geste. Il nous en débarrasse.
Il y a le geste, et puis, c'est très intéressant, il y a la disparition de l'ego, en fait.
Absolument.
Hein, de l'ego cogito de l'acteur, hein, de celui qui se pose comme transcendant à la marionnette, en
Absolument.
Fait.
Absolument.
Hein,
et voilà. Là, on retrouve... Moi, je ne suis pas... Je le dis très naïvement, hein,
oui.
Mais on retrouve encore cette idée... qui a eu une grande fortune aussi dans certains mouvements, pas seulement dans les années de Barthes, mais aussi encore aujourd'hui, du concept du zen.
Oui.
Vous videz en ce sens-là, c'est très difficile à rendre, je le dis très superficiellement, mais c'est vrai, hein, on vide, on se débarrasse en ce sens-là. Et alors, justement, il nous explique comment ce geste, comment s'agit, comment on peut vraiment se débarrasser du corps de la tour. Il dit comment précisément par une certaine pensée du corps humain, voilà, qu'on revient, une pensée du corps humain que la matière inanimée mène ici avec infiniment plus de rigueur et de frémissement que le corps animé. Mmh. Non, il y a ce paradoxe, justement tu disais Nathalie, alors il y a ce paradoxe que ici l'inanimé rend encore plus animé les corps, en ce sens-là, au point que quand Barthes, et je vais à page 84, parle du théâtre occidental, il nous dit, et je cite, « Prenez les théâtres occidentaux. » Encore une fois, on est toujours dans un morceau, pardon, c'est un fragment, on l'a dit, qui s'appelle « Dedans, dehors
oui. ».
Là, il était animé, inanimé.
Mm.
Et alors, il dit « Prenez le théâtre occidental des derniers siècles. Sa fonction est essentiellement de manifester ce qui est réputé secret, tout en cachant l'artifice même de la manifestation. La scène à l'italienne, alors je ne le cite pas pour ça, mais ok, la scène à l'italienne est l'espace de ce mensonge. Tout s'y passe dans un intérieur
subreptice.
Merci, c'est très difficile pour moi, pardon. Et ouvert, surprise, épié, et voilà. Et cet espace est, il dit, théologique.
Mmh.
Alors là, c'est un grand mot, hein.
Oui.
Il y a théologique. C'est lui de la faute. Alors, il y a cette lecture-là qui nous renvoie toujours à un horizon qui nous appartient.
Oui.
Et il précise, d'un côté, dans une lumière qu'il feinte d'ignorer, l'acteur, c'est-à-dire le geste et la parole, de l'autre, dans la nuit, le public, c'est-à-dire la conscience. Mmh. C'est comme dire, vraiment, on ne peut pas vraiment se débarrasser. Non, c'est quelque chose qui nous force à aller, disons, qui nous force à rester dans cette, dans ce périmètre. Là, c'est différent. C'est-à-dire un peu l'effort de voir le Japon de bas, c'est toujours encore, on croit, de dire, bien sûr, il y a des dichotomies, il y a des oppositions, mais encore une fois, on fatigue bien, hein, on fatigue bien à reporter toute cette complexité, cette étrangeté à ce monde, non, à ces mondes auquel moi, en tant que Bart, et moi, en tant que, je ne sais pas, de citoyen européen, je n'appartiens pas, en ce sens-là. Donc, et pour terminer cette, vraiment cette fragmentaire exposition, et c'est, il y a la question qui est très à la mode, je ne sais pas, parmi tes étudiants, parmi les miens, oui, de la question de l'haïku.
Ah, oui.
Oh. Mm. Non, ça va très à la mode. Et surtout, j'ai vu, je ne sais pas si c'est à la mode seulement ça, ou de demander à l'intelligence artificielle, qui apparemment est une... la sensibilité poétique incroyable, je ne sais pas, c'est pas vrai, mais ok, de composer des haïkus. Mm. Et les, la composition de, des haïkus est quelque chose qui force à réfléchir autour de la, de, du concept du sens, hein, en général. Barthes l'appelle l'effraction du sens. Et encore, le fait que l'haïku, il ne veut rien dire. Mm. Et l'haïku, et ça, c'est, disons, un peu pour... dont, pour conclure cette première partie, et page 108 et 109, l'haïku est une sorte de métaphore du Japon. C'est une sorte de métaphore du Japon qui est justement le lieu où on va voyager musicalement dans quelques instants, n'est-ce pas, Nathalie ?
Oui, tout à fait.
Alors, je termine seulement pour avec la lecture de ces lignes qui portent en soi. Merci d'avoir introduit les concepts de paradoxe, chère Nathalie, parce que c'est vrai, il part de signes, de significations, de ça. Le paradoxe du paradoxe de ce livre est que là, on regarde les signes. L'écriture, mais l'écriture en sens physique de Barthes.
Oui.
Il y a le Barthes photographe, dessinateur, il y a le Barthes qui écrit. Donc, oui. C'est le paradoxe du paradoxe, c'est très, très barthésien. Moi, je termine seulement avec ces lignes-là. Ce que j'ai dit ici du haïku, page 108, je pourrais le dire aussi de tout ce que advient lorsqu'on voyage dans ce pays que l'on appelle ici, c'est magnifique, le Japon. Car là-bas, dans la rue, dans un bar, dans un magasin, dans un train, il advient toujours quelque chose. Et alors, le quelque chose qu'on va expérimenter maintenant, chère Nathalie.
Ouais, c'est la magnifique Maria Callas, décidément dirigée par Karajan. Et voilà, dans un air qui s'appelle Un bel di vedre
mo. Bravissimo.
Voilà, et c'est Puccini, c'est ça ?
Absolument, Giacomo
voilà.
Puccini.
Voilà, et c'est... je vous le dirai après, je suis fatiguée. On écoute. Philippe Donnefort, qui est derrière la cabine, qui est en cabine technique, voilà, d'avoir fait, malheureusement, mais je lui ai demandé, un tapis sur la magnifique Maria Callas. Moi, je ne peux pas me... Voilà, c'est pour moi la chanteuse. Oui, oui. Voilà, peut-être avec Anne-Sophie von Otter. Hein. Mmh. Hein, voilà, ma grande Anne-Sophie von Otter. Nous écoutions Madame Butterfly et cette histoire d'amour dramatique et matinée de racisme. Mmh. Hein, voilà, hein, de racisme. Et ça nous intéresse parce que là, on s'inscrit, l'émission s'inscrit dans la semaine du Japon et on essaie de parler philosophiquement de ce qu'on appelle l'autre, l'autre culture, l'autre langue. L'inconnu, mais dont on maintient d'ailleurs l'étrangeté, hein, qu'on n'essaie pas d'assimiler. Hein. Et là, il y a là quelque chose dans Madame Butterfly de très touchant, puisque cette femme, ouais, finalement, oui, se fait...
Bon, une histoire d'amour trahie, oui, dans ce sens-là, et aussi une trahison de la part même de la, entre guillemets, hein, à oui, l'occidental, de la femme, disons, de la culture.
Tout à fait.
Ce qu'il a fait envers une société comme celle japonaise, qui est une société où tu fais vraiment partie d'une communauté, c'est-à-dire on peut dire d'une tradition, d'une religion, de la famille, de certaines règles. Ce oui, que l'amour l'a porté à faire. Et après.
Oui.
Et après.
Et peut-être c'est le concept d'assimilation aussi, hein, qui est là-dessous, c'est-à-dire par amour. Elle a accepté d'être assimilée par l'amour, pour l'amour d'un autre, à une autre culture, on pourrait dire. Oui. Et finalement, elle en a été meurtrie, hein, au sens d'ailleurs premier du terme. Bon. Voilà, une très belle... voilà, on voulait un peu porter une musique, un opéra avec Maria Callas. Position de la femme et position d'une femme... oui, acculturée, déculturée, en tout cas soumise, aussi bien amoureusement que culturellement.
Oui, disons oui. Oui. Il y a déjà là la grande question qui aujourd'hui nous fait penser au rôle de la femme. Ça, c'est en général.
Oui.
Et donc, une femme japonaise, un homme américain. Donc, oui, il y a déjà toute une, disons, tout un récit en ce sens-là.
Tout un récit.
Aussi, c'est une opéra immortelle, on peut le dire. Elle nous fait encore parler, et ce n'est pas seulement une question d'amour, ça c'est très important. Mais c'est aussi une question très importante dans la société japonaise, dans la société orientale, de l'appartenance, de la relation entre l'individu et la communauté. C'est-à-dire l'individualisme, qui est une chose très importante. Quand nous parlons, par exemple, aujourd'hui, Nathalie, de la question des droits de l'homme et de toute cette sphère-là, qui sont des droits qui centrent l'individu. Mais cet individu dont nous parlons, est-ce que c'est le même ici et là ?
Oui, tout à fait. Ce que tu as commencé d'ailleurs d'évoquer avec Roland Barthes. Alors, on continue notre dialogue. Moi, tu n'hésites pas, Michele, à rebondir sur l'empire des signes de Roland Barthes, dont tu nous as donné l'eau à la bouche. Et on espère ici provoquer des sentiments amoureux vis-à-vis des auteurs dont on vous parle. Vous alliez courir acheter leurs ouvrages. Alors, moi, je voudrais me servir de quelques concepts d'un philosophe très très intéressant qui a dirigé le Collège international de philosophie à ce propos d'ailleurs et qui s'appelle François Julien. Mmh. Alors François Julien, il est intéressant, vous pourriez me dire, mais enfin c'est un sinologue, il est connu d'abord pour s'être intéressé à la pensée chinoise. Oui, mais il n'empêche qu'à travers la pensée chinoise, d'ailleurs il a au début travaillé sur le Japon pour bifurquer tout de suite après vers cet autre horizon culturel. Les concepts de François Julien dans son ouvrage De l'écart à l'inouï, hein, mm-hmm. Chez Carnet de Lerne, hein, un tout petit ouvrage très agréable à lire, on trouve des concepts très intéressants qui vont peut-être nourrir le dialogue. Parce que nous sommes effectivement là aujourd'hui, je crois, Michele, dans cette semaine du Japon, hein, sur l'antenne d'Aligre FM, toute la semaine. Aujourd'hui, pour nous, c'est l'idée de qu'est-ce que l'autre, une culture étrangère, et particulièrement une philosophie que l'on nomme étrangère d'ailleurs, une autre philosophie fait à la nôtre. Hein. Peut-être que dans cette partie, on pourrait, et tu as commencé déjà à l'évoquer avec Roland Barthes, c'est vraiment l'idée d'une déconstruction de nos propres catégorie philosophique. Bon. Et dans son ouvrage François Julien, De l'écart à l'inouï, on reviendra sur le concept d'inouï, puisqu'on s'est rendu compte tous les deux que Barthes aussi en parlait.
Ah oui, hein, oui on l'a bien ouvert.
Voilà,
oui.
Hein, tout ça. François Julien, dès le début, écrit « Qu'est-ce qui arrive à la pensée quand elle quitte ses grands philosophèmes, l'être, Dieu, la vérité, la liberté, ce grand carré théorique. » Donc, François Julien, dans son rapport, lui, à la Chine, et plus globalement au monde oriental, hein, parce que chez lui, il y a vraiment un travail entre philosophie occidentale et philosophie orientale, il traite de la question du dehors, hein, en tant que, et c'est ce qu'on pourrait dire, le Japon, notre dehors, ce que ce dehors dit de notre histoire en Europe et de notre histoire philosophique, hein, de notre histoire philosophique classique qui est excluante, hein, qui a pu être excluante en tout cas du monde arabe et qui a été excluante aussi de l'Orient, hein, notamment dans sa construction en tant qu'histoire de la philosophie. Donc, ce que nous invite à réfléchir François Julien dans son rapport à la Chine, hein, comme autre, mais c'est un autre qui vient finalement déconstruire nos catégories ontologiques. Hein. Il me semble que déjà, on en a parlé tous les deux avec Barthes, hein, peut-être la déconstruction de ce qu'on appelle peut-être l'ego transcendantal, hein, dans mm-hmm. tout le travail, dans toutes les lectures que tu nous as proposées de ce corps. Hein, ce qui est intéressant, c'est on pense avoir un corps, et un corps presque universel, et en fait, il y a une autre manière de concevoir la notion du corps, et donc le rapport à la pensée. Alors, une déconstruction de l'ontologie, nous dit Julien, c'est-à-dire au sens vraiment d'une philosophie de l'être, mm-hmm. hein, qui essaie finalement, qui se détermine autour du grand concept de « je suis », hein, pour pouvoir donner un sens absolu, hein, « To be or not to be », nous dit François Julien dans « Déconstruction de l'ontologie », de son ouvrage « De l'écart à l'inouï », hein. Alors que ce qu'il finalement repère, notamment dans le monde chinois et dans la pensée orientale, c'est « Est-ce qu'une autre pensée, en dehors de la catégorie de l'être, se donne à voir ?» mm-hmm. et vient du coup destituer nos grandes catégorie à nous, en Occident, hein, dans la philosophie. Donc, on comprend que, et dans cette semaine du Japon, ce qu'on comprend, c'est, à travers l'ouvrage de Julien, c'est vraiment ce que l'autre dit de nous, mm-hmm. et peut-être de notre impensé. Hein.
Ah, bien sûr, oui, de l'impensé. Bon.
Oui, voilà, sous toutes ses formes, tout ce que finalement la philosophie classique n'a pas voulu penser, peut-être on pourrait dire, dans sa subtilité, dans sa multiplicité, dans son perspectivisme, hein, j'ose dire. Ah, mais je te vois sortir.
Ah non, bah, parce que tu m'as fait penser, justement, oui. Tu m'as fait justement penser à cette question, penser... En pensée.
Oui.
J'ajoute à une référence à un auteur qui est très cher à toi, parce que je sais que tu l'as beaucoup étudié, qui est Jacques Rancière.
Oui.
Et alors, seulement pour citer un morceau, encore une fois, sur la question de l'haïku, parce qu'il parle, par exemple, de la question du lisible. Le lisible et l'illisible. Et là, je trouve qu'il y a déjà, par exemple, le discours de Rancière. Qu'il exprime par exemple une malaise de l'esthétique, justement, dans le sens que ce régime esthétique, c'est-à-dire ce régime qui façonne après le politique qui s'exprime dans un contexte. Donc, penser en pensée, lisible, illisible, en ce sens-là, traduisible, intraduisible, en ce sens. Donc, on sait, comment dire, on construit vraiment des ponts entre nos, disons, nos références, en ce sens-là.
Tout à fait. Sans assimilation.
Sans assimilation.
Sans assimilation. C'est ça qui est difficile à saisir. C'est que chez des gens comme Roland Barthes, comme chez François Julien, il y a le maintien de quelque chose qui n'est pas entièrement assimilable. Mmh. C'est-à-dire cette étrange étrangeté qui reste et qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une... Quand on va essayer de saisir la pensée japonaise, la philosophie japonaise, ce n'est pas pour l'assimiler, essayer d'en produire la vérité absolue de manière, peut-être on pourrait dire, complètement fausse d'ailleurs. Hein. Mmh. Il ne s'agit pas de la transcender, mais plutôt de prendre ce que nous donne cet autre pour mieux se voir et mieux se comprendre, hein, et comprendre finalement nos oublis, nos manques dans la propre histoire de notre propre histoire de la philosophie occidentale. Alors un très beau concept qui est chez François Julien, c'est celui de la disponibilité. Aller vers, alors là, le Japon, la philosophie japonaise, la pensée japonaise, c'est adopter le concept de la disponibilité en tant que philosophe. Alors qu'est-ce que c'est que la disponibilité ? C'est de garder une position ouverte, hein, de ne pas avoir de position arrêtée, d'avoir une position effectivement d'accueil liée à une ouverture au possible. Hein, l'ouverture à l'autre, l'ouverture à une autre manière de concevoir la philosophie, une autre peut-être manière de définir la philosophie. Hein, se maintenir, nous dit François Julien, dans un possible, hein, COM-possible, hein, voilà, pour finalement remettre en question toute forme de détermination a priori. On l'a évoqué tout à l'heure, je crois, à demi-mot, mais il ne s'agit pas là de reproduire le schéma quand même un peu majoritaire de la philosophie classique, à savoir une forme d'ethnocentrisme, en fait. Hein.
Ah oui.
Oui,
oui, qui est tout à fait une question que nous... C'est-à-dire, entre nous, nous avons bien dit, dans le sens, un ethnocentrisme, un eurocentrisme, à ce sens-là.
Tout à fait, hein, absolument, un eurocentrisme. Donc, ces concepts de disponibilité, d'ouverture, le concept aussi d'être au dehors, c'est-à-dire aller vers le Japon, aller vers une philosophie et une ère culturelle qui porte une philosophie qui n'est pas la sienne, hein, c'est précisément... Penser dans un ouvert, ce que François Julien appelle aussi un écart productif. Hein. Alors, c'est cette idée aussi dont parlait Montaigne. Hein. Qu'est-ce que c'est que d'aller vers l'autre ? C'est précisément se voir dans le regard de l'autre. Hein. Et se voir, c'est aussi se remettre en question. Hein, voilà, se critiquer en tant que pensée instituante.
Justement. Hein, et là, il y a justement la limite, le problème qu'on a vu aussi avec Barthes, mais quand le regard de l'autre est si autre qu'on met en question le fait même qu'il y a un regard pour nous, Voilà. Voilà. Là, il y a cet écart dont tu parles. Hein.
Tout à fait, absolument. Mmh. Voilà, alors j'en termine, mais en tout cas, aller vers l'autre, hein, aller vers la philosophie japonaise ou la philosophie du Japon, c'est précisément remettre en question ce que la philosophie occidentale a posé comme étant la philosophie.
Ah oui. Hein,
voilà. Et c'est plutôt ouvrir un écart vers les différences, mais vers aussi une différence que l'on va intégrer pour penser mieux, peut-être,
oui.
Penser autrement. Hein. Voilà, on avance dans le temps, hein, dans cette émission consacrée au Japon et à la philosophie, et on va donc te laisser la parole, Michele, pour ta flanosophie, après le petit générique.
Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Aligre FM, je vous souhaite la bienvenue dans cette petite rubrique de philosophie au présent qui s'appelle Flanosophie, la quasi-science du divertissement intellectuel qui a vu sa naissance dans les locaux de cette radio libre, comme libre est la pensée que la flanosophie est censée exprimer. Et aujourd'hui, chers flanosophes, on poursuit notre voyage dans les temps, sur les temps et à travers les temps grâce à une action qui unit deux figures d'artistes. Et alors, une petite énigme pour des vrais flanosophes, c'est-à-dire pour des curieuses et des curieux. Quelle est l'action d'un musicien qu'un musicien et un danseur partagent constamment? Quel est le geste qui permet aux musiciens et aux danseurs de dialoguer, même de se disputer, toujours de se respecter? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et alors voici notre flanosophie autour de l'art de compter le temps. Quand nous étions des enfants, ils nous disaient qu'il faut commencer à compter. Après le 1 arrive le 2, après le 2 arrive le 3, et voici qu'on se trouve dans un univers de chiffres, des mesures, des quantités. Et même si on joue à cache-cache, il faut toujours donner les temps aux amis, bien entendu, avec les yeux mi-fermés. Mais si la mesure de temps a fait son entrée depuis longtemps dans nos vies, compter, c'est quoi? Quelle est la différence entre compter des poivrons ou des fraises et compter des instants? Mais laissons les poivrons et les fraises de côté un instant. Comment expliquer l'acte de compter par rapport au temps? Et comment la musique et la danse pourraient aider la philosophie à trouver une réponse à tout ça? Compter est l'acte qui permet aux musiciens et aux danseurs de penser l'existence de leur art, de faire ainsi que la musique et la danse soient les gestes les plus radicaux envers cette créature capricieuse et hautaine qui est le temps. Et le temps procède sans jamais revenir ni sur ses pas, ni sur ses erreurs. Mais compter les temps ne représente pas seulement l'acte d'associer à un chiffre ou un son, un silence, un pas ou une position. Compter, c'est premièrement discipliner les temps, qui est un vrai cheval noir, indiscipliné et absurde, car il dépasse toute logique de la condition humaine. Si nous réfléchissons bien, le temps n'a pas un début ni une fin. Il ne s'arrête jamais, il ne s'excuse jamais. Il nous fait vieillir dans l'illusion qu'il vieillit avec nous. Mais le temps garde toujours une jeunesse sans printemps et nous donne l'illusion de parcourir une ligne, car la seule dimension qui lui appartient, écrivait un danseur dont le nom était Friedrich et le prénom, c'est un cercle qui revient et revient constamment. C'est pourquoi le seul maître jamais ignorant, pour revenir encore une fois à Rancière, qui sont capables de discipliner cet illusionniste bien habillé qui est le temps, sont toujours la musique et la danse. Et même quand un musicien, un danseur, improvise sans compter, ils sont toujours en train de compter, mais d'une façon autre. Ils comptent pour le temps, ils comptent face au temps, et ils ne considèrent jamais personne qui n'épargne aucune existence. Les musiciens et les danseurs partagent ainsi un destin très engageant. Ils sont les vrais et les seuls maîtres et messieurs de messieurs le temps qui leur donne, comme signe de gratitude, la possibilité de lui survivre.
Merci beaucoup, Michele. Alors, on aurait dû intituler cette émission « L'autre inouï de petits points, le Japon philosophique ». Voilà, on s'est inscrit cette semaine dans la semaine du Japon, voilà, à travers deux auteurs, Roland Barthes et François Julien. Les références seront sur Instagram, sur le site www.aligrefm.org, 93.1, vous étiez sur Philosophie au présent, un partenariat qui a maintenant quelques années avec le Collège international de philosophie et Aligrefm. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et allez sur notre site, faites des dons, nous en avons besoin. Merci, Michele Saporiti.
Merci, Nathalie Perrin.
À très bientôt. Et merci à Philippe Donnefort à la technique.
Au revoir.
Vous écoutez Aligrefm 93.1.